Allez, on commence tout de suite avec les élections américaines. Quelle démocratie étonnante quand même, hein. Born in the USA. On a à peine tous les résultats d'élections qui ont eu lieu il y a près de 2 semaines. C'est quand même assez étonnant. Ce qu'on sait maintenant, hein, de façon certaine, c'est qu'il n'y a pas eu la vague républicaine qu'on attendait. Alors certes, ils ont, ça y est, la majorité à la Chambre des représentants, mais par contre, ils n'ont pas emporté le Sénat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Robert ? D'abord, juste une petite réflexion, c'est étonnant quand même, d'une grande démocratie comme ça, avec un système électoral où on est encore en train d'attendre les résultats des élections, et où évidemment tous ceux qui ont perdu dans le camp Trump disent tous les résultats sont faux.
Évidemment, ça c'est le grand leitmotiv. Hein. Oui, c'est étonnant, mais c'est le fonctionnement du système. C'est vrai que tous les deux ans, finalement, entre les mid-termes et les élections, on se dit c'est quand même assez insensé, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, on n'a pas eu cette marée républicaine, comme elle était un petit peu... Alors, ça, quelques enseignements...
Pas du tout, même.
Bon, pas du tout.
Bah oui,
Bon, c'est quand même... les sondages, comme toujours,
se sont plantés,
mais ça, on le sait, ça, c'est pas nouveau. Deux, je pense qu'il y a quand même certains sujets qui ont été très importants, notamment le droit à l'avortement, il ne faut quand même pas l'oublier. Ça fait du mal aux républicains.
Les médias américains disent tout simplement que ce sont les femmes
qui ont
permis l'avance des républicains.
Elles ont participé, c'est clair.
C'est très clair.
Mais je pense aussi que les hommes sont impliqués dans cette
élection. Oui,
cette
évidemment, non, mais il y a eu quand même cette mobilisation qui a été formidable.
Ouais. Ensuite, j'allais dire, d'abord, traditionnellement, moi je dis toujours que les résultats des élections, enfin le pouvoir politique... Alors c'est pas tellement vrai, c'est vrai sur les 2 dernières années avec la crise Covid, parce que le poids de la politique budgétaire a été d'une telle importance.
Oui.
Et dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qu'on peut pas dire ça, mais traditionnellement, enfin moi en tant que gérante et évidemment tournée davantage vers les sociétés, c'est pas...
Ah, c'est presque un non-événement.
C'est presque un non-événement,
ah, oui.
Mais quand même il faut, sur l'agenda politique, moi je pense que les républicains là, avec la Chambre des représentants, ne vont pas se gêner quand même pour aller de partir sur le chemin des investigations.
On a un système qui est bloqué quand même.
Voilà.
Il ne va rien se passer.
Exactement. Et sur l'agenda législatif, on pouvait s'attendre qu'avec les Républicains, on ait effectivement une politique budgétaire
un peu plus
restrictive, et moins de dépenses.
Oui.
Mais là, finalement, il ne va rien se passer.
C'est important pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale, ces élections.
Oui, c'est important. Et peut-être un point pour revenir sur le politique. Je crois que dans l'histoire américaine, il n'y a que 3 présidents américains qui aient remporté les élections de mid-term. Et je crois que le dernier, ça devait être Bush. Le précédent, c'était Roosevelt, Bush en 2002. Mais au moment où ils étaient engagés, il y avait les Twin Towers qui venaient de tomber. Donc on voit bien que le fait qu'il n'y ait pas de raz-de-marée républicain est quand même un message
qui est un gros événement.
C'est vraiment un événement important.
Ouais, je suis d'accord.
Ajouter aussi à cela, vous avez vu que plusieurs milliardaires ont déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas, qu'ils ne subventionneraient pas la campagne de Trump. Donc,
à commencer par Murdoch. Hein.
Ouais,
et donc avec tous ces médias. Hein.
Donc il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. Après, sur la politique, venons sur l'économie, sur la politique budgétaire, celle-ci a déjà tourné kazakh en réalité. Et l'exemple type, c'est ce qui s'est passé avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, où on est déjà dans une situation où on retire de l'impulsion budgétaire, là où jusqu'à présent, et ça s'était vu évidemment pendant le Covid et avec le paroxysme qui était le plan de relance adopté en 2021, où là on injectait énormément d'argent. Là, les États-Unis sont en train de faire machine arrière et de retirer de l'impulsion budgétaire qui a jusqu'à présent été quand même un des facteurs premiers explicatifs de l'inflation qui est intervenue aux États-Unis.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, on va parler tout à l'heure du pivot des banques centrales, vous nous dites le pivot du gouvernement américain, il a déjà eu lieu, et finalement ce statu quo que Virginie nous décrit, hein, parce que ça va être un peu un standstill jusqu'à 2024, finalement on va être dans une situation un peu d'attente.
Oui, tout à fait. Oui.
Et la clé du pouvoir sera plutôt du côté de la banque centrale américaine.
Exactement.
Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier l'impasse budgétaire. On en aura, c'est sûr. La question, c'est quand ? Probablement au deuxième trimestre de l'année prochaine.
Oui, mais
la question
de
du debt ceiling.
Oui,
c'est vrai que ça fait 80 fois qu'on augmente de debt ceiling, mais peut-être que cette fois-ci, ça risque d'être compliqué parce qu'économiquement, on sera dans un cycle compliqué. Donc, on est déjà proche de cette limite de 31,1 trillions de dollars qu'ils ont augmenté l'année dernière, en fin d'année dernière. Mais là, avec le fait qu'on rentre dans une récession en début de 2023, même s'il est modéré, ça risque d'accélérer le processus puisqu'on aura moins de recettes. Après, effectivement, je pense que ça va, ils vont arriver à un accord, mais est-ce que ça va créer beaucoup de volatilité comme en 2011, c'est pas sûr. Et auquel cas, bah forcément, les taux vont augmenter, ils vont payer plus de charges d'intérêt. Donc voilà, ce sont des effets négatifs qu'on a déjà vus dans le passé. Donc ça peut être aussi compliqué en fait comme processus au vu de cette division qu'on attendait et qui est moins forte.
Mais les résultats justement donnent de la apaise un peu ce sujet. Enfin, en tous les cas, ça va moins le contraindre, moins le porter.
Mais ça le
effectivement de la dette.
On peut se dire qu'on n'a pas de gouvernement pendant les deux ans qui viennent, ou peu, parce que bon, ils vont se bloquer les uns les autres, et que c'est peut-être une très bonne nouvelle pour le business.
Il y a toujours les executive
l'économie.
Orders.
Oui, bien sûr.
On peut toujours faire comme ça.
Mais disait Denis, on ne va pas s'attendre à des grands plans de soutien et grands plans de relance, c'est fini, on n'a pas passé le cap.
Non, mais surtout que les circonstances économiques ne s'y prêtent pas. Effectivement, comme le dit Anna, c'est plutôt une récession modérée et de toute façon qui est, dont le mouvement est dicté en priorité par la Banque Centrale. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, la main a changé, elle a pivoté, elle est désormais beaucoup plus du côté de la Fed.
C'est intéressant de se dire, en fait, ils vont être sur un déficit public proche de 7% du PIB. Donc vraiment, il y a l'austérité ou la consolidation budgétaire ou le manque de stimulus et puis le cycle qui fait que ça dérape vraiment. Donc,
Alors, attendez, on s'arrête là-dessus, c'est important. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'on n'en a rien à foutre de 7%?
Ce qui est compliqué, c'est que si vraiment la récession est plus forte qu'anticipée et qu'on voudrait faire un peu plus de stimulus, peut-être qu'ils vont faire 0,5 points de PIB.
C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, 7%, c'est pas important, mais on n'a plus de marge.
On n'a plus de marge.
On dit toujours qu'on n'a plus de marge, mais on retrouve toujours de la marge. C'est-à-dire qu'on va dire, maintenant,
tout dépend de ce que la Fed va faire. C'est plutôt ça. On revient à la Banque Centrale.